sur 103,5.
Les Nations Unies célèbrent ce lundi 29 mai 2006 la Journée internationale des casques bleus pour rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui ont servi et servent encore dans les opérations de maintien de paix de l'ONU. Dans ce cadre, la radio Capi a donné la parole à certains officiers de la MONUC pour exprimer leurs sentiments dans la conduite des opérations de maintien de paix en République démocratique du Congo. Nous faisons d'abord le point avec notre confrère Jean-Paul Moulumba avant de retrouver le colonel Papa Demba Diop de la brigade ouest de la MONUC chargé de l'information publique. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour JR, bonjour chers auditeurs.
Les casques bleus sont dans différentes missions de maintien de paix à travers le monde, notamment en République démocratique du Congo avec la MONUC, qui est la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Pouvons-nous savoir ce que représente pour cette personne, cette noble mission d'être au service des maintiens de la paix?
Effectivement, JR, la mission de la MONUC est considérée à l'heure actuelle comme la plus grande mission de paix des Nations Unies dans le monde avec plus de 19 000 effectifs civils et militaires compris. Et on trouve des casques bleus dans différentes villes du pays, notamment en Kalemie, Kisangani, Bunia et aussi Kinshasa, pour ne citer que ces villes-là. Quant à savoir ces casques bleus, ce qu'ils pensent d'être au service de maintien de paix, je vous propose de suivre les avis de quelques casques bleus béninois postés à Kalemie au micro de notre confrère Expedi Mwamba.
Personnellement, moi je suis confiant, je suis totalement intégré, je suis dans une population africaine, je suis avec des frères congolais et nous participons ainsi à la reconstruction progressive de l'intégration. Le Bénin participe, apporte sa pierre à l'édification d'une nation africaine et à ce titre, je suis fier d'être présent dans l'histoire.
Justement parce que déjà nous sommes tous des Noirs, nous sommes africains. Pour Dequin au début, ils avaient des embûches, des dangers, mais je crois que ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes tous des Africains, nous avons les mêmes traditions, les mêmes mœurs, nous nous intégrons facilement et c'est avec plaisir que nous menons nos missions. Et vous le savez bien, donc ces actions nous donnent du baume au cœur. Nous sommes très contents et pensant que d'ici là, la démocratie s'installera très bien dans la République sœur du Congo.
Nous sommes prêts pour assurer la mission qui nous est allouée. On est prêts et nous sommes sûrs que nous allons donner confiance au peuple congolais puisque nous sommes rompus à la tâche et nous sommes sûrs que nous serons appréciés.
Jean-Paul, en dehors de Kalemie, il existe d'autres villes où on trouve des casques bleus. Qu'en est-il de ceux qui sont par exemple à Bunia?
Voilà. À Bunia, notre confrère José Menga a pu échanger avec quelques casques bleus. Ils expriment un motif d'honneur et de fierté pour leur mission. Fierté de participer à une opération de maintien de paix, fierté de porter secours aux milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. Plus que ça, d'autres sentiments humains obligent à vous souffrir également de l'absence de leur famille. Je vous propose de suivre l'un d'eux des contingents nigériens à partir de Bunia.
Ce que je ressens par rapport à cette journée, c'est deux sentiments. D'abord, un premier sentiment de faire partie d'une équipe qui joue quand même un rôle très important pour le retour de la paix au Congo. Et un honneur de faire partie de cette équipe dont la mission principale est de contribuer modestement au retour de la paix, apporter un soutien moral à la population qui a tant souffert. J'avais dit deux sentiments. Le deuxième, ce personnel, le sentiment d'être loin de ma famille. Nous sommes des humains. Certainement, ce sentiment aussi ne peut passer inaperçu. Donc, la famille nous manque et je pense qu'il est important de le souligner ici.
C'est plus fort. Alors, Jean-Paul, semble-t-il, il y a aussi des casques maliens en Ituri.
Oui. Je vous propose d'écouter encore l'un d'eux, toujours au micro de notre confrère José Menga.
Je dirais simplement que j'ai quelques motifs de satisfaction pour la journée des casques bleus. Je me trouve présentement en Ituri où, pour le motif que j'ai par rapport à ce motif de satisfaction, la noblesse de la mission qui consiste à assister tous les jours que Dieu fait, les femmes et les hommes ici au Congo. Et un motif aussi de satisfaction pour avoir contribué à cette mission humanitaire le motif aussi d'avoir fait la connaissance des femmes et des hommes au Congo et l'idée d'encourager tous les casques bleus qui participent à cette mission avec moi, dont mon souhait le plus ardent est que chacun d'entre eux puisse trouver sa famille dans de très bonnes conditions.
Mais voilà, alors c'est qu'on va terminer avec vous, Jean-Paul. Mais avant de nous séparer, est-ce que vous avez suffisamment le temps d'avoir aussi d'autres avis à part les casques bleus de Bouda, disons, de l'Ituri et de Colu de Kalemi?
Tout à fait. Suivant ces casques bleus sénégalais au micro de la radio Okapi qui s'en gagne.
C'est pour représenter dignement le Sénégal, comme le Sénégal l'a toujours fait dans tous les champs d'opération de l'ONU.
On est Sénégalais, on est là où le devoir nous appelle.
Venir maintenir la paix, aider nos parents congolais, c'est ça que j'ai à dire.
C'est un plaisir pour nous, parce que étant Africain, tout le monde sont les frères africains, si on est congolais, on a le droit. Si on nous le permet, on a le droit de venir les aider pour établir la paix.
Vous savez, le Congo est un pays frère et ami. Nous sommes tous des Africains. Quand un Africain a des problèmes, quand Nations Unies fait l'appel, l'État sénégalais a obligé d'envoyer des contingents ici, moi que c'est nous. Vous savez, le militaire, il est là uniquement pour maintenir la paix au niveau du territoire Congo. Donc nous, on est là en tant que pays et frère et ami, on est là pour représenter le Sénégal dignement. Ce n'est pas autre chose à ajouter.
Je vous remercie.
La Journée internationale des casques bleus des Nations Unies, c'est ce lundi 29 mai 2006. Quelle image avez-vous des casques bleus des Nations Unies? N'hésitez pas, envoyez-nous vos SMS au 081 070 20 50 ou appelez-nous au 081 890 103 94. Alors, ceux qui ont la facilité d'écrire, faites action@radiocapi.net. Merci Jean-Paul pour cette enquête.
Merci à vous. Merci à vous.
Okapi, active pour la paix.
Colonel Papa Dimba Diop de la brigade ouest de la MONUC chargée de l'information publique est notre invité aujourd'hui. Bonjour colonel.
Bonjour.
Alors première question, ben, je vais juste poser la question comme l'ont fait certains casques bleus qu'on a entendus dans les Vox Pop. Monsieur Diop, vous êtes colonel de la brigade ouest de la MONUC. Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale des casques bleus. Quel sentiment avez-vous personnellement?
Je vous remercierai d'abord de m'avoir donné l'opportunité d'être là et de parler de la Journée internationale du casque bleu au nom de mes chefs hiérarchiques. Sentiment de fierté, parce que tout simplement, c'est un signe de solidarité. C'est un signe de solidarité que le Sénégal est là, donc présent sur le théâtre congolais depuis 61, au début des indépendances africaines, une première fois en 61, une deuxième fois en 79 avec la crise katangaise, et depuis 99 pour une troisième fois au Congo. Donc sentiment de fierté, réellement. Quoi.
Okay. Alors, que représente une telle journée pour vous et pour certains casques bleus aussi? Parce que vous êtes sénégalais, il y a des casques bleus qu'on a, des Maliens, de plusieurs contingents. Que représente une telle journée pour vous et pour eux aussi?
La journée de la paix, ça signifie tout simplement que le soldat est un gardien de la paix, non un combattant.
Non, pas un combattant.
Non, un combattant.
Oui.
Non, un combattant. Gardien de la paix.
Gardien de la paix.
Gardien de la paix. Donc, le port de l'arme n'est que dissuasif. C'est pour porter l'arme et inviter les belligérants à mettre fin à la crise. Donc, de façon très générale, les opérations de maintien de la paix ont pour objet de trouver des solutions pacifiques au conflit.
Oui, ben, si je ne me trompe pas, il y a 5 ans que les casques bleus sont au Congo, donc surtout pour gérer les conflits de Congolais. Vous êtes là il y a 5 ans, mais on a comme l'impression que la population a toujours une image pas très bonne de casques bleus, surtout à l'est du pays, là où il y a des zones disons à problème parfois.
Oui, c'est dû tout simplement au fait qu'il y a un problème de communication en direction de la population, pour leur expliquer c'est quoi la MONUC, quel est le mandat de la MONUC. Parce que la MONUC n'est pas là pour se battre à la place des forces armées de la République démocratique du Congo, mais plutôt pour soutenir pour appuyer. Parce que le Congo est un État souverain. L'armée, c'est l'armée républicaine qui doit se mettre au premier plan. Et maintenant, la Monique derrière et fournir l'appui qu'il faut. L'appui en feu, si vous voulez bien, soit par la Syrie, soit par l'aviation. Le soutien logistique, en les transportant ces militaires au plus près des zones de combat, en leur fournissant, s'il y a lieu, l'alimentation, en leur fournissant également, s'il y a lieu, l'équipement sur l'homme.
Oui, mais quand il y a conflit, on suppose que, disons, l'armée congolaise, disons, n'était pas réunifiée, il n'y avait pas une armée unique. Donc les gens, il y avait des combattants par-ci, par-là. Alors, mais le maintien de la paix, vous dites, vous êtes des gardiens de paix et non des combattants. OK, mais alors, mais le peuple congolais, lui, attendait que les casques bleus puissent transformer en combattants, c'est-à-dire trouver vite la solution des problèmes congolais.
Oui, mais ça, c'est la règle. C'est la règle d'or et que la MONUC s'engage avec le mandat et est obligée d'exécuter le mandat tel que donné par le secrétaire général des Nations Unies. Donc, on ne peut pas tout de suite supplanter l'armée congolaise. Parce que supplanter l'armée congolaise, c'est dire demain, la MONUC se dégage, qui sera là? Point d'interrogation. Or, il faut aider le peuple congolais à mettre sur pied, après les élections, une armée forte républicaine, une police forte républicaine. Parce que le paradoxe, c'est quoi demain? On tient les élections, elles se terminent bien. On n'arrive pas à maintenir la sécurité. C'est ça le paradoxe. Il faut y arriver. Oui. Depuis lors, on avait parlé de 18 brigades.
Bon, oui.
Il est évident que ça n'a pas été trop facile. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 12 brigades. Mais quand même, avec ce qu'il y a, on peut parvenir à tenir les élections correctement, je pense, c'est mon avis personnel, et de là maintenant continuer à avoir une armée performante.
Alors beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment procède-t-on au recrutement des casques bleus, notamment militaires et qui se charge de leur paiement.
Qui se charge de leur paiement, c'est les Nations Unies.
Les Nations Unies.
Ils sont pas payé par le budget congolais, du tout.
Oui, les Congolais pensent que c'est leur contribution, ils donnent aux Nations Unies, et les Nations Unies payent les casques bleus.
Non, la contribution des Nations, chaque pays membre des Nations Unies donne sa contribution. Et le casque bleu est rémunéré par les Nations Unies. Il n'émarge pas dans le budget congolais. Et ça, je crois que c'est les journalistes qui doivent quand même faire cette opération de communication en direction des peuples pour leur expliquer que ces gens-là sont là, à la demande des autorités étatiques congolaises souveraines, pour venir aider le Congo à ramener la paix et la sécurité dans ce pays.
Oui, mais alors, colonel, il y a, disons, un autre volet de questions, de la question qui est restée. Comment procède-t-on au recrutement? Est-ce qu'on ramasse, on va au Sénégal, parce que vous êtes sénégalais, on trouve colonel Papa là-bas, on dit, vous êtes retenu comme casque bleu, vous allez au Congo, ou il y a toute une procédure?
La procédure est simple. C'est d'abord, le casque bleu, c'est d'abord un militaire. Militaire en fonction, en durée normale de service. Il y a une opération qui se déclenche, on demande aux Sénégalais et au Sénégal de participer. Le Sénégal avec un certain effectif. Le pays essaie d'évaluer le moyen qu'il peut mettre en place et dit, je peux mettre par exemple 500 hommes. Ces gens-là, on les prend en unité constituée. En unité constituée, on les prend, on les rassemble. Et pendant à peu près 3 mois, on les instruit sur ce qu'on appelle le droit humanitaire. Le peacekeeping opération, comment on mène une opération de maintien de la paix. Donc ça, c'est des rudiments qu'ils apprennent, parce qu'ils ont appris uniquement à faire la guerre. Aujourd'hui, on leur dit, vous tenez l'arme, mais l'arme ne sert pas à tuer, tant qu'à d'extrême nécessité. Donc vous utilisez l'arme pour amener les belligérants à comprendre qu'il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils discutent pour amener la paix.
Être au service de la paix est une noble mission, on le sait, mais est-ce toujours facile de se dévouer à cette mission, à cette mission-là?
Oui, c'est toujours. Tant qu'il y a des conflits, il faudrait bien qu'il y ait des gens qui soient prêts à aider. Parce que sans une solidarité agissante, le monde vivrait de convulsions qui n'en finiront jamais. Donc, c'est difficile, mais il faut y arriver. Mais ça, c'est d'abord la mission des militaires. Ils signent un contrat avec l'armée, 24 heures sur 24, prêts à. Jusqu'au sacrifice,
je crois. Oui, c'est difficile. Et là, déjà, j'ai des réactions des auditeurs. Les réactions nous sont déjà parvenues. Et je commence par la réaction de Déborah, qui nous a écrit de Bounia. Elle dit, les casques bleus en République démocratique du Congo sont composés de combien de nationalités?
110 nationalités.
110 nationalités.
110 nationalités.
Donc, il y a des Sénégalais?
y a des Sénégalais, il y a du tout, il y a du Népalais, il y a des Bangladeshis, il y a des Pakistanais, des Indiens, des Tunisiens, Marocains, Zambiens, Kenyans, 110 nationalités.
Donc bref, c'est le monde.
C'est le monde, c'est les Nations Unies, disons-le clairement. Voilà.
Alors, à ce jour de la célébration de la journée des Nations Unies, ça c'est l'ingénieur Roger depuis Tembo, il dit à ce jour de la cérémonie de la journée des Nations Unies, je veux être informé sur les conditions requises pour devenir un soldat de la paix. Et ici en République démocratique du Congo, on s'est fait volontaire. Donc, il pose la question, si ça s'est fait volontairement, on devient casqué bleu. Vous l'avez expliqué juste une partie en tant que Sénégalais. Ben, si on peut revenir pour répondre à notre auditeur.
Non, c'est d'abord aux militaires, comme j'ai dit, de son pays. Et quand les Nations Unies demandent l'intervention du pays pour participer à une mission quelconque, on choisit les éléments par unité constituée et puis on les rassemble et puis on leur fait une formation pour leur permettre d'acquérir les réflexes qu'il faut et puis les savoir-faire tactiques et techniques qu'il faut pour mener la mission. Mm-hmm. C'est une mission de paix. Et donc le droit humanitaire est très souvent, un bon nombre, constitue quand même un nombre important des heures consacrées à cette étude.
Willy Nimé Al-Boumbashi, vous êtes recruté pour le maintien de la paix ou pour l'observation? Ça, c'est, je crois, avoir une précision sur l'observation et le maintien de la paix, quelle différence il y a?
Non, c'est la même chose. Le maintien de la paix, c'est l'ensemble.
Oui.
Dans cet ensemble-là, il y a ce qu'on appelle les contingents qui sont là, dans des secteurs bien définis pour assurer la sécurité.
Oui, comme on l'a dit, Sénégalais, Indiens, Pakistanais.
En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les observateurs, ceux qui sont en train d'aller sur le terrain, d'observer et de rendre compte des situations qui se passent pour prévenir toujours les éventuels conflits qui peuvent survenir entre factions ou alors entre les factions et les populations.
Il y a Guy qui a écrit de Kinshasa. Ben, je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Pouvez-vous nous citer les pays qui ont fourni le soldat à la MONUC? Donc là, nous avons dit c'est plus d'une centaine. Ils sont nombreux.
Il y a 110 pays.
110
pays. Par exemple, quand vous venez à la Brigade Ouest, il y a un contingent tunisien, il y a un contingent uruguayen, il y a un contingent ghanéen, un état-major assez étoffé où toutes les nationalités se retrouvent. On a des Russes, on a des Népalais. Il y a un peu de tout. 110 pays, vous voyez, c'est pas trop évident.
Alors, Mahindo Magui, étudiante, elle dit c'est avec larmes aux yeux que j'écris ce message. Qu'ont-il fait jusque-là pour remédier à la situation que traverse le pays? Donc, pour elle, rien n'a changé. Donc, avant, pendant et après les élections, peut-être qu'elle pense que ça sera toujours la même chose. Qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement pour le pays?
Concrètement, on a mis au moins sur pied, aider le gouvernement congolais à mettre sur place au moins 12 brigades. Une brigade fait 3500 hommes. C'est déjà pas mal. Mais dites-vous bien aussi que passer d'une situation de milice à armée régulière, c'est pas trop évident. C'est pas trop évident dans les faits. C'est des gens qu'il faut reprendre, changer un peu les mentalités, les ramener dans le droit chemin, les intégrer, c'est pas toujours évident. Dire que rien n'a changé, je crois que c'est du pessimisme, pur et dur, vraiment, parce que ça change, on le sait bien, parce que si ça ne changeait pas, les gens n'auraient pu quand même pas voter à un taux de 85% pour le référendum dernier. Il s'apprête aujourd'hui et il réclame ce peuple-là, réclame les élections.
Oui, il y a Gabriel là, Kinshasa, il dit « J'exprime ma satisfaction ». C'est le contraire de la réaction de l'étudiante. « J'exprime ma satisfaction à tous les agents de la MONUC pour les efforts consentis pour la paix dans mon pays ». Et d'ailleurs, il profite pour vous souhaiter bonne fête.
Merci beaucoup.
Alors, ça me fait comment de dire voilà, qu'il exprime sa satisfaction?
Voilà, c'est ça, parce que effectivement, il voit de façon palpable ce que la MONUC fait sur le terrain.
Mmh.
De façon palpable. Puis on va y arriver. La paix, c'est un processus. Ça ne se déclenche pas tout de suite. Et puis, pour avoir un terme d'un ou trois mois, c'est un processus.
Je rappelle que nous recevons pour vous, chers auditeurs, le colonel Papa Demba, voilà, Papa Demba Diop, qui est de la brigade ouest de la MONUC, qui est sénégalais. Nous le recevons. Si vous avez des réactions, faites-le nous parvenir au 081-070-2050 ou encore nous écrire à action@radiocapi.net. Colonel, certainement il y a des difficultés que vous rencontrez, j'imagine. Est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez nous faire une idée sur certaines difficultés que vous avez déjà rencontrées tout au long du processus?
La difficulté majeure est là. que le fait que, comme vous l'avez souligné dès le départ, que les populations ne comprennent pas très bien qu'est-ce que c'est que la MONUC. Parce que pour certains, la MONUC doit venir se battre à la place des forces armées régulières de la République démocratique du Congo. Il y a certains également qui pensent que la MONUC est là, est marge dans le budget congolais et ne fait rien. C'est ça la grande difficulté. Oui. Donc il y a un problème de communication à la population, de faire comprendre c'est quoi la MONUC, que fait la MONUC. Et ça, quoi que je crois qu'au niveau de la Brigade Ouest, on s'y attelle. Parce que l'essentiel de nos activités tourne dans le volet socio-humanitaire.
Oui.
Alors, et on n'oublie aucune frange de la population. Les hommes, les femmes, les élèves, les étudiants, l'enfance en souffrance, même les forces armées et de sécurité ne sont pas oubliées. En fait. Donc, brassage vers les populations pour expliquer davantage c'est quoi la MONUC, c'est quoi. C'est pas facile, mais...
Et sur terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, les militaires, surtout à l'Est?
À l'Est, pas tant que ça. C'est un problème de communication, mais au point de vue tactique opérationnel, ils n'en ont pas. Mmh. C'est juste un problème de comprendre, que la population comprenne c'est quoi la MONUC. Qu'ils ne fassent pas l'amalgame en se disant la MONUC est là pour venir rétablir la paix, donc tout de suite, elle se met en première ligne et elle se bat pour régler la situation. C'est ça la grande difficulté, le fait que les gens pensent que la MONUC, c'est à la MONUC de régler immédiatement la situation sécuritaire à l'Est.
Non mais l'effectif c'est autour de 19 000, c'est énorme. Mm-hmm. Alors moi je me dis au début c'était combien et comment nous sommes arrivés à 19 000 et aujourd'hui quelles sont les pertes que vous avez déjà enregistrées, disons, pour le compte des casques bleus?
Pour le compte des casques bleus, si je ne me trompe pas, on est à 70 pertes. Depuis le début de la mission en 99, à 70 pertes.
Et donc 19 000, c'est l'effectif, c'est énorme. Donc comme vous l'avez dit, de plusieurs nationalités, des Sénégalais déployés dans tous les pays.
Mm-hmm,
mais il y a certains points du pays où on ne retrouve pas des casques bleus.
C'est normal. Vous voyez un peu l'énormité du territoire congolais, 2 millions, je crois, 400 km², c'est pas évident. Dites-vous bien que si vous faites un rapport, il y a un casque bleu pour 250 km², c'est pas évident. On ne peut pas assurer la sécurité sur chaque kilomètre, c'est pas possible.
Voilà, donc, colonel Demba, Papa Demba Diop, vous êtes, je rappelle, de la brigade ouest de la MONUC, chargé de l'information publique. Vous avez été notre invité aujourd'hui par rapport à cette journée internationale des casques bleus. Nous vous remercions.
Oui, je voudrais terminer en disant que dans cette célébration, vous vous rappelez tout simplement que la Brigade Ouest est impliquée, a une implication directe dans cette cérémonie, puisque le contingent tunisien a reçu les élèves de l'enseignement secondaire samedi. Ce matin, c'est les Ghanéens qui seront autour et dans l'après-midi, ce seront les Européens. Donc il y a l'implication directe de la Brigade Ouest qui essaie de prendre cette journée, donner à cette journée toute la dimension qui s'y est.
Merci beaucoup, je te considère ça comme le dernier mot.
Tout à fait. Et tout le plaisir a été pour moi d'être reçu chez vous. Merci.